France Culture, avoir raison avec Maria Zambrano. Carla Michel.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cinquième et dernier épisode, l'espérance, moteur de l'histoire. La quête philosophique de Maria Zambrano est aussi de nature spirituelle. Si Maria Zambrano n'a jamais appartenu à une institution religieuse, elle est toutefois sensible au phénomène de la mystique. L'expérience mystique met en lumière l'une des capacités propres à la nature humaine, qui consiste à se transcender, à aller au-delà de soi-même pour devenir autre. C'est dans les situations qui apparaissent sans issue, telles que la guerre, l'exil ou la mort, qu'une telle expérience peut se révéler féconde. Car du désespoir peut surgir l'espérance, et c'est bien elle qui relance l'être humain dans la vie. Notion centrale de la pensée de Maria Zambrano, l'espérance est une force vitale qui transcende l'être humain. Créatrice, cette force est le moteur de l'histoire, et son affaiblissement doit être une source d'inquiétude. C'est en effet dans l'espérance, en tant qu'elle nous met en mouvement, que se dessine un horizon pouvant permettre à l'être humain de retrouver le sens de l'histoire personnelle et collective lorsque celui-ci semble perdu. Pour clôturer cette série d'émissions, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Barre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de lettres, critique littéraire et votre étude intitulée Les Incandescentes, consacrée non seulement à Maria Zambrano, mais aussi à Simone Veil et à Christina Campo, apparue aux éditions Pierre-Guillaume Deroux en 2019. Elle a fait l'objet d'une réédition en 2023 aux éditions R&N. On peut aussi citer votre recueil de critiques littéraires À la recherche du royaume, publié aux éditions Ovadia en 2023. J'ai aussi le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Jean-Marc Sourdillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres en classe préparatoire littéraire et poète. Vous avez traduit plusieurs textes de Maria Zambrano. Et en 2024, vous avez publié un livre intitulé Maria Zambrano, Le choix de naître, aux éditions de Corlevour.
Pour atteindre l'aurore, j'ai dû beaucoup souffrir, passer par de mauvais moments. Je ne sais pas si vous y verrez quelque chose, ou s'il y a quelque chose à voir dans le fait que, lorsque j'étais à la pièce, une ferme dans le Jura, j'ai passé de nombreuses nuits à écrire jusqu'à l'aurore du lendemain. J'étais extrêmement fatiguée. Mais c'était aussi comme si je recevais, je ne sais pas, une grâce, une approbation. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je recevais quand j'écrivais jusqu'à l'aurore du lendemain. Ce que me disait cette aurore, tout ce qu'elle me donnait à vivre.
C'était la voix de Maria Zambrano dans une archive datant de septembre 1985. Elle évoque cette période où elle a vécu à la pièce, un lieu-dit dans le Jura au cours des années 1960 et 1970. Malgré la détérioration de sa santé, c'est une période de grande effervescence intellectuelle pour elle. Elle écrit beaucoup, parfois des nuits entières. Et dans cette archive, elle décrit ce qui la soutient, la porte, à savoir l'aurore. Cette clarté qui paraît au début du jour et qui annonce le lever du soleil. Il n'y a pas un épisode dans cette série d'émissions où l'aurore n'a pas été à un moment ou à un autre évoquée. Jean-Marc Sourdillon, à quoi correspond l'aurore pour Maria Zambrano? De quoi est-elle l'image?
Oui, alors, première chose, c'est toujours très émouvant d'entendre la voix de Maria Zambrano, pleine de douceur, une sorte de douceur secrète. Et puis, on a dit que c'était quelqu'un qui revenait, comme une sorte d'Eurydice qui revenait de l'enfer, après tout ce qu'elle a vécu, et elle sort de l'enfer, et qu'est-ce qu'elle dit? L'aurore. Moi, je trouve ça très beau, bon, ce passage. Ensuite, ce qu'elle dit ici, effectivement, c'est qu'il y a une nuit de l'aurore qui prépare l'aurore. C'est-à-dire qu'il faut passer par beaucoup d'affres, de douleurs, de souffrances, pour avoir cette possibilité de voir l'aurore. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que l'aurore, c'est un je ne sais quoi. On peut pas dire exactement ce qu'il y a dans l'aurore. C'est la forme d'un mystère, et en même temps, c'est palpable. Et c'est ça qui est très beau, c'est que l'aurore nous donne à voir quelque chose, comme elle le voit, elle le dit dans son livre de l'aurore. Il y a plusieurs caractéristiques de l'aurore. Très rapidement, hein, moi j'en vois trois. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est pas tellement l'aurore c'est davantage l'aube que l'aurore, c'est-à-dire quand la lumière est non focale et que le soleil n'est pas encore apparu, parce que le soleil, c'est le symbole de l'absolutisme, hein, de Louis XIV, du roi soleil, et qui découpe des formes et donne des définitions, et donc elle compare l'aurore à une sorte d'eau, en fait. La deuxième chose, c'est que l'aurore est une apparition disparaissante, c'est-à-dire c'est un commencement qui arrive et qui n'est pas suivi d'autre chose, et qui laisse dans l'âme, qui laisse dans les yeux le regret de ce commencement qui n'a pas été poursuivi. Et donc toute la journée est hantée par le souvenir de ce commencement. Et ce commencement, ce qu'il introduit dans le monde et dans le temps, c'est une ouverture vers quelque chose qui justement transcende ce monde et ce temps, et donc la possibilité d'une transcendance.
Et quand voit-elle l'aurore pour la première fois ? On peut peut-être le rappeler, Jean-Marc Sourdillon.
Oui, alors, disons que la première fois, je pense que c'est pendant son enfance, elle souffrait d'insomnie et elle attendait l'aurore pour s'endormir. Mais la fois la plus terrible, c'est au moment de franchir la frontière, enfin, c'est à la fin de la guerre, pour elle, à la fin de la guerre civile, mais le début de l'exil, où elle a vu une aurore rouge. Elle appelle ça une aurore sanglante, et c'était l'idée de voir sa république, et donc son rêve, décapité. Elle assistait à ce commencement sans suite, justement.
La lumière, on le voit, semble faire naître chez Maria Zambrano un sentiment d'une extrême puissance. On peut le deviner si l'on se réfère au titre de son essai consacré au mystique espagnol Saint Jean de la Croix, de la nuit obscure à la plus claire mystique, ou encore au titre des œuvres de la dernière partie de sa vie, comme De l'aurore ou Les clairières du bois, où la dimension mystique occupe une place importante. Elisabeth Barr, peut-on dire que l'aurore éveille chez elle un sentiment de nature mystique ?
Oui, alors je pense le premier sentiment, comme vient de le dire Jean-Marc Sourdillon, c'est plus elle a découvert l'aurore, elle était fatiguée, et cette aurore est comme une reconnaissance de toute la nuit de douleur. Là, je pense que c'est la situation, je dirais charnelle, la situation concrète qu'elle vit à un certain moment, qui ensuite, chez elle, va se transformer en une démarche mystique. Parce que son essai de l'aurore, dont vient de parler Jean-Marc Sourdillon, c'est un livre qu'elle a écrit vraiment dans les dernières années de sa vie, qui elle avait plus de 80 ans. Et donc, entre la pièce, l'époque où elle était dans le Jura exilée, et le moment où elle va écrire ce livre, où elle a retrouvé le pays natal, elle a retrouvé l'Espagne, il y a eu certainement toute une démarche, effectivement, de nature mystique. La mystique, c'est finalement, en un sens, l'abandon à l'expérience vécue, l'abandon du « moi », l'abandon de l'ego, on dirait aujourd'hui, au cœur d'une expérience qui est profonde et parfois très douloureuse, effectivement. Et au fil du temps, de cet abandon, va venir une traversée de la nuit ou une traversée du désert. Donc elle va en vivre plusieurs dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, il y a la mystique, c'est finalement l'amour. C'est ce qu'on appelle la mystique, c'est la relation amoureuse à une transcendance. Et effectivement, on pourrait dire que l'aurore, c'est quelque part la manifestation d'une transcendance. Alors laquelle, justement, je pense que chez elle, ça va varier au fil de son œuvre. Quelle transcendance, vous voyez ? C'est toujours un au-delà de la vie.
Pour revenir sur le phénomène de la mystique que vous venez d'évoquer, oui, dans l'essai qu'elle consacre à Saint Jean de la Croix, oui, Maria Zambrano parle de l'expérience mystique comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'âme humaine.
Oui, tout à
donc
fait.
Elle la considère comme une potentialité essentielle de la nature humaine, quasi biologique, si l'on s'appuie sur une image qu'elle prend et qui me semble très parlante, et vous allez, oui, nous l'expliquer. Oui. La chrysalide qui détruit son cocon pour devenir papillon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène, et est-ce que voilà, ce n'est pas là que réside la forme de transcendance que vous venez de nous évoquer. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de transcendance qui habite l'être humain dans ses entrailles même ?
Voilà. Alors, ce qui habite l'être humain, justement, et c'est ça qui fait la mystique, chez certains êtres humains, alors est-ce que c'est caché chez d'autres ou est-ce que ça n'apparaît que chez certains ? Mais c'est une forme d'amour, et d'ailleurs, elle dit dans un autre essai qui s'appelle « Les clairières », où on retrouve la lumière,
les clairières du bois,
que l'amour est préexistant à tout. Donc, ce qui est de l'ordre de la nature humaine, ce qui est de la nature humaine, c'est le fait que chez certains êtres humains, il y a un amour tellement grand qu'il ne peut se contenter d'un objet terrestre ou d'un objet humain. Il y a un amour transcendant lui-même, si vous voulez, ou un amour qui dépasse les possibilités de l'homme. Et elle dit, c'est cela qui est quasiment biologique. Ça veut dire, puisque ce phénomène de la mystique, c'est-à-dire donc de cet amour immense qui va conduire certains mystiques à tout abandonner, quasiment la vie, hein, puisque j'y reviendrai, mais chez Saint-Jean de la Croix, en apparence, il abandonne la vie pour trouver un objet d'amour à la mesure de cet immense amour. Ça, c'est une expérience qu'on retrouve dans toutes les cultures. C'est pas propre à la culture chrétienne. On la retrouve dans toutes les grandes religions, on la retrouve dans toutes les grandes cultures. Donc,
c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'elle écrit, toujours dans cet essai consacré à Saint-Jean de la Croix, que la mystique est à elle seule une religion qui est entrée ensuite dans le christianisme, mais la question de la mystique ne coïncide pas avec
Exactement.
La question chrétienne.
Exactement. Et c'est en ce sens-là, pour revenir au biologique, que puisque c'est universel, en ce sens où ça a toujours existé, où les expériences mystiques, elles sont attestées, où ça a traversé le temps, l'histoire, il y a donc un phénomène qui est du même ordre. Elle ne dit pas que c'est biologique en soi, mais c'est analogue à l'instinct.
Parce qu'elle prend cette image qui appartient au monde biologique, de la chrysalide.
Voilà. Alors ensuite, du coup, elle va prendre cette image qui appartient au monde biologique, c'est-à-dire que, par exemple, dans l'expérience de Saint-Jean de la Croix, qu'elle observe et dont qu'elle médite à partir d'une des œuvres majeures de Saint-Jean, qui est le Cantique spirituel. Donc, dans cette expérience, elle découvre que la personne dévore son moi, son âme même, comme le cocon dévore la chrysalide pour sortir en papillon. De sorte que l'âme... Alors, il y a apparemment un moment de destruction, de mort, qui correspond chez l'homme à la destruction du moi, mais qui va ensuite donner une autre vie.
Peut-être qu'on peut donner un exemple d'expérience mystique. Dans l'épisode de cette série consacrée à l'exil, nous avons évoqué le fait que Maria Zambrano lit son expérience de l'exil à l'aune de l'expérience mystique. Pourquoi dit-elle que l'exilé se trouve dans la même situation que le mystique, Elisabeth Barr ?
Alors, c'est pareil, c'est dans un essai intitulé « L'exilé » qu'elle dit cela, et qui relate, ou qui transmet, ou qui traduit bien des années après, là c'est pareil, son expérience de l'exil. Et la même situation, c'est une situation, l'exilé, le mystique est plongé dans la nuit, l'exilé, pour l'exilé, elle prend l'image du désert, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'exilé perd tout par la nature de l'exilé, la situation pardon de l'exilé, c'est de perdre tous les médiateurs, de perdre tout ce qui le reliait au monde avant, si bien qu'il va être dans une situation où il est face à l'infini, face à l'illimité. Et par rapport à cet infini, il peut soit se consacrer à l'existence, c'est-à-dire affirmer son moi, c'est-à-dire le contraire de la voie du mystique, ou alors prendre la voie du mystique, c'est-à-dire abandonner son moi, s'abandonner même au temps. Et c'est dans une telle situation, une telle démarche d'arrachement qu'on pourrait rapprocher de ce que Platon écrit dans Phèdre à propos de l'amour, hein, le détachement d'un amour particulier pour atteindre l'amour total, l'amour absolu. Et c'est donc dans ce détachement du mystique, détachement du terrestre, détachement, qu'il va découvrir, alors là, l'objet d'amour, ce sera la patrie et ce qu'elle appelle la patrie véritable. Et la patrie véritable, c'est pas une terre, c'est une terre, mais c'est une terre où l'histoire fut un jour semée.
Une patrie spirituelle.
Voilà, une patrie pneumatique, oui, spirituelle, tout à fait.
C'est peut-être donc dans les situations désespérantes, comme celle de l'exil qu'on vient de mentionner, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la guerre, la mort, que l'expérience mystique peut se révéler féconde, puisqu'en effet, n'est-ce pas du désespoir que peut surgir une forme de transcendance, à savoir l'espérance, que Maria Zambrano décrit, je la cite, comme ce qu'il y a de plus humain, mais aussi de divin dans la vie de l'homme. Jean-Marc Sourdillon.
Oui, alors, effectivement, peut-être qu'avant Oui, enfin, d'abord, c'est l'expérience de l'exil va être celle d'un dénuement total. Enfin, se retrouver tout d'un coup sans les contours qui forment le moi, sans les, on l'a dit tout à l'heure, hein, ce qui forme le séjour, l'existence.
Et peut-être sans le cocon de la chrysalide. Et,
exactement.
Si on reprend l'image.
Oui, oui, et je pense que l'image qui, enfin, c'est le sentiment exact de l'abandon, d'être abandonné. Et à ce moment-là, le sentiment qu'éprouve l'exilé, et donc la, c'est celui d'être un nouveau-né, d'être réduit à l'état de nouveau-né. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, puisque on n'a plus de définition, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est naître. Et cela suppose de sentir qu'on est le lieu d'une transcendance, mais cette fois-là, d'une transcendance à l'intérieur du temps, et que donc on doit aller en se transformant, parce que ça, je crois que c'est une idée essentielle qu'il faut dire à un moment, c'est que pour Maria Zambrano, et là ça nous conduit du côté du biologique, c'est que l'être humain, à la différence de l'animal, lorsqu'il naît, n'est pas achevé. Et que, en fait, il éprouve donc le besoin très profondément, pour continuellement s'adapter au monde, de naître et de continuer à naître jusqu'à l'achèvement.
On l'avait vu dans Personne et démocratie, ce livre-là, elle écrit que l'homme est un être qui n'en aura jamais fini de naître.
Exactement. Voilà. Et donc, c'est une sorte de geste inachevé. Hein. Mmh. Voilà. Et il s'agit de naître au-delà de la mort, hein, au bout d'un moment, de continuer
Tout semble se passer comme si c'est de la mort que naît la vie. Et vous avez identifié dans vos travaux sur Maria Zambrano, Jean-Marc Sourdillon, une sorte de triade conceptuelle, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais qui s'articule autour de l'agonie, l'espérance et la naissance, justement.
Exactement. Alors, je trouve qu'on voit très bien dans le cas de figure de l'exil, c'est-à-dire que Maria Zambrano, c'est quelqu'un qui a rêvé la République, qui a combattu pour elle, et qui donc, et puis même qui a rêvé une vie pour elle en Espagne, et donc tous ses espoirs d'un coup s'écroulent. Et c'est là, à ce moment-là, qu'elle se retrouve dans le dénuement le plus total.
Et si on s'intéresse alors de façon plus approfondie à ce qui nous permet d'avancer vers la clarté naissante de l'aurore, c'est bien l'espérance, en tant que moteur de l'histoire, qu'il faut prendre en considération. C'est pourquoi je vous propose d'écouter la lecture d'un extrait de Maria Zambrano, intitulé « Les racines de l'espérance », publié dans Los Bienaventurados en 1990.
Vivre ne suffit pas à l'être humain. Il ne vit vraiment que lorsqu'il est en train de vivre une histoire, individuelle et collective, qui possède un sens. C'est en fonction de l'espérance que le sens de l'histoire personnelle s'atteint, en dépit de toutes les différences qui peuvent apparaître entre l'histoire personnelle et l'histoire proprement dite, celle de la collectivité à laquelle on appartient, ou celle, enfin, de l'humanité tout entière, l'espérance déposée en elle. Ce que l'histoire recèle de promesses, et qui, en dépit de tous ses avatars, va en s'accomplissant, est ce qui lui donne son caractère d'histoire humaine, ce qui lui permet d'être racontée. Une histoire sans espérance ne peut faire l'objet d'un récit. L'espérance, en donnant le sens de l'histoire, de toute histoire, construit la continuité de la vie. Ce souffle, si souvent imperceptible, finit par être constructeur. L'acte d'édifier depuis le commencement fait partie de cette construction du pont de l'histoire humaine, d'un pont qui passe sur le fleuve du temps et qui simultanément conduit l'eau, d'un pont que l'on pourrait nommer aqueduc.
France Culture, avoir raison avec Maria Zambrano. Carla Michel.
Maria Zambrano parle dans ce texte de l'espérance, une vertu théologale, qui prend dans son œuvre la forme d'une force vitale. Elisabeth Barr, qu'est-ce qui distingue l'espérance de l'espoir chez Maria Zambrano ?
Alors justement, l'espoir, c'est de l'ordre de l'humain, et ça a toujours un objet humain. On espère quelque chose, on espère une amélioration de sa situation, on espère que ses enfants réussissent leurs examens, etc. Alors que l'espérance, c'est en quelque sorte sans objet, et elle dit dans son essai « Les racines de l'espérance » que c'est une force surhumaine. Elle prend l'exemple des peuples opprimés et menacés d'anéantissement, qui pendant parfois plusieurs générations vivent une situation quasiment invivable et qui gardent quand même cette force au-dessus effectivement du fleuve du temps. Donc c'est une force surnaturelle. Elle dit, donc je la cite, c'est le fondement ultime de la vie. Elle est la vie humaine, la vie elle-même, qui chez l'être humain se dirige inexorablement vers une finalité, vers un au-delà, la vie qui, enfermée dans la forme d'un individu, la déborde, la transcende. Donc, c'est l'espérance, c'est la vie qui déborde la vie même de l'individu. Et l'un des symboles de l'espérance, c'est justement le cœur où bat toujours l'espérance. Donc c'est une force surhumaine qui ensuite peut donner cette puissance créatrice, c'est-à-dire comme non seulement de toujours naître et renaître, mais de toujours créer quelque chose, créer une œuvre ou créer malgré justement les désastres que l'on traverse.
Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle qualifie l'espérance de moteur. Maria Zambrano nous dit que l'espérance donne le sens de l'histoire et ce faisant, je cite le texte, construit la continuité de la vie. Pour illustrer ce que l'espérance construit, Maria Zambrano prend l'image d'un aqueduc. Jean-Marc Sourdillon, que nous dit cette image ? Et pourquoi le pont de l'histoire humaine est un type de pont bien précis, à savoir un aqueduc ?
D'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, quand elle réfléchit à l'histoire, bien sûr, c'est au récit de l'histoire, et elle voit que, en fait, chaque génération ou chaque individu reprend, il s'agit de reprise, les rêves brisés de ceux qui ont précédé. Et donc, justement, les espoirs déçus, et qui sont reconduits comme ça sous une forme de renaissance continuelle à l'intérieur de l'histoire de chacun. Et elle aime justement l'image d'un pont avec ses arches, hein, et on voit comme ça ce mouvement des rêves qui se reprennent et qui se réalisent petit à petit, toujours d'une manière imparfaite, mais qui continuent comme ça et devient donc l'image concrète de l'espérance. Alors l'aqueduc, c'est très intéressant.
Oui, parce que je crois que vous avez une anecdote qui concerne la vie bio de Maria Zambrano elle-même.
Voilà, on a exactement le cas d'une figure, c'est-à-dire qu'en fait, cet aqueduc, c'est un aqueduc réel dans l'histoire de Maria Zambrano, parce qu'elle a habité longtemps à Ségovie, un grand aqueduc, et c'est là qu'allait se promener son père, Blas Zambrano, avec son meilleur ami, Antonio Machado. Et discutait, et refaisait le monde sous cet aqueduc-là. Et lorsque le père de Maria Zambrano est mort, c'est-à-dire en 1938, en novembre 1938, c'est-à-dire au moment de la fin de la République, la fin de la guerre d'Espagne, et au moment du départ en exil de sa fille, elle a reçu une lettre de Machado qui lui disait « J'ai fait un rêve et j'ai revu votre père et son aqueduc. Votre père m'est apparu comme un architecte d'aqueduc. » C'est-à-dire qu'en fait, il était celui qui incarnait l'espérance. Et son métier, c'était d'être professeur, d'être pédagogue et de transmettre. Et je pense que ce qu'il a transmis à sa fille et ce qui lui a permis de passer à travers une vie tellement douloureuse, tellement d'effondrement, d'échec, d'occasion de souffrir ou de dépression même, ça a été justement ce que son père lui a transmis, cette espérance. Et donc elle est aussi elle-même une architecte d'aqueduc, et à travers cette image, c'est ce qu'elle nous transmet finalement, cette image de l'espérance comme espoir d'un on ne sait quoi qui se situe du côté de la transcendance et qui nous conduit à naître et renaître constamment dans notre existence et à emporter avec nous les autres hommes.
Et c'est aussi pour ça, peut-être, qu'une autre métaphore de l'espérance que prend Maria Zambrano, ce sont les ruines. C'est un texte datant de 1951. Je lis quelques lignes. « Toute l'histoire, même la plus splendide, est un échec qui porte en lui-même son triomphe, la renaissance incessante de l'espérance humaine, symbolisée par le lierre. » Qu'est-ce que cette figure du lierre vous évoque, Jean-Marc Sourdillon ?
Elle vient de Dionysos, je pense, déjà, peut-être. Oui. Bon, et je pense que ça compte pour Maria Zambrano. Mais c'est effectivement l'idée que... Il y avait une phrase d'une poète qui s'appelle Marie-Noël, qui à propos du lierre, « Je ne meurs pas, je m'attache. Oui. » L'idée d'une sorte de résistance, de persistance dans le temps. Et effectivement, cette incessante renaissance au cours du temps qui fait que peut-être que c'est urgent de lire Maria Zambrano aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est peut-être ce qui nous manque en ce moment.
Si on prend un exemple d'expérience concrète de l'espérance à l'échelle individuelle, donc prenons le cas de Maria Zambrano, par exemple, comment l'espérance lui permet-elle de traverser le deuil de sa sœur Araceli ? On sait qu'elle était très proche d'elle, celle-ci meurt en 1972. Qu'est-ce que l'espérance lui apporte.
Voilà, bah, là devant, c'est toujours ces situations sans issue finalement où naît l'espérance. Et donc la mort de sa sœur, c'est son monde qui s'écroule véritablement. Et au moment où elle est devant, en plus sa sœur lui avait demandé de la laisser mourir. Donc elle a vu sa sœur partir contre son gré. Et donc elle voit le corps de sa sœur morte. Et là, il y a deux images qui vont se superposer. D'abord l'image de sa sœur au moment de sa naissance. Et ensuite, justement, cette image de ce corps mort, elles ne font qu'une. Il y a comme si ce corps irradiait une sorte de lumière, et elle va penser cette présence de la mort à travers deux images qu'elle est allée chercher à Athènes lors d'un voyage, qui est l'image du le fameux masque d'Agamemnon qui est tout en or, d'une part, et d'autre part un lécite, c'est-à-dire un vase mortuaire sur lequel est peinte une scène où on voit et sur le fond tout blanc lisse du vase un couple de parents observer leur fille morte, et la fille semble flotter légèrement en l'air, et il y a toute cette blancheur, toute cette lumière, et le corps de cette jeune fille. Et ce que dit Maria Zambrano, c'est qu'à ce moment-là, le corps de sa sœur est devenu comme une sorte de lampe. C'est comme si toute sa vie s'était déployée tout d'un coup, mais cachée par la lumière, et on cherche à savoir ce qui se passe de l'autre côté de la lumière. Et ce qui va la frapper, c'est l'absence de la respiration. Et comme toujours chez elle, c'est à partir de la négativité que tout se pense. Cette absence de la respiration lui fait imaginer une autre forme de vie qui se développe de l'autre côté de l'écran de la lumière.
Encore une fois, c'est toujours de la pénombre que naît la clarté, exactement, de la mort que naît la vie.
Oui.
Et si on prend maintenant un exemple d'expérience concrète de l'espérance, mais cette fois-ci à l'échelle de l'histoire, et vous l'avez un petit peu évoqué, Maria Zambrano n'est-elle pas elle-même un aqueduc, pour reprendre son image, au sens où par son œuvre, elle nous transmet elle aussi la capacité d'espérance, et comment, selon vous, Jean-Marc Sourdillon, le fait-elle peut-être le mieux ?
Je pense en passant par l'expérience. C'est-à-dire que sa pensée est toujours incarnée, elle est toujours en situation, et aussi d'une manière un peu énigmatique parfois. Moi, j'aime beaucoup, enfin, s'il fallait lire un livre pour moi, en tout cas, commencer Maria Zambrano, ce serait Les Clairières du Bois, que je trouve un livre magnifique, qui est une suite de fragments, et c'est un peu comme quand on regarde à travers un verre dépoli. C'est-à-dire qu'on voit la lumière, mais on sait pas toujours très clair. Mais en même temps, il y a justement au cœur de cette œuvre, ce mouvement à la fois vers l'avenir et vers la lumière, à travers tous les dédales, tous les labyrinthes et toutes les souffrances de l'existence, personnelle comme historique, qui fait qu'avec elle, on respire.
L'espérance, en même temps, semble inextinguible, mais c'est en réalité, Elisabeth Barre, une force qui doit être préservée et se transmettre, on vient de le dire pour Maria Zambrano.
Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Après, effectivement, elle dit bien au début aussi du récit, des racines de l'espérance. Elle dit, quand elle oppose les peuples opprimés qui ont cette force surhumaine en eux, elle l'oppose à nous autres en Occident, qui, avec nos prétentions à régenter la réalité sans avoir de contact avec elle, écrit-elle, et avec nous sommes justement tout le temps angoissés et en fait en perte d'espérance.
Oui, j'ajouterais juste, c'est qu'on a le sentiment aussi d'être dans une sorte d'amertume permanente, coincé dans notre impuissance, avec une sorte de trousse à outils pour bricoler des situations, alors qu'en fait on a besoin d'un horizon, donc du travail de l'imagination pour représenter pour nous l'espérance justement en acte, et ça c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui.
Eh bien, je vous propose de terminer sur ces mots. Il est peut-être urgent de lire Maria Zambrano. Merci beaucoup Elisabeth Barre et Jean-Marc Sourdillon. Les références de vos travaux sont indiquées sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci également à Géraldine Sageman qui, toute cette semaine, a prêté sa voix à Maria Zambrano. À la prise de son aujourd'hui, c'était Clara Galivelle. Et je remercie chaleureusement Julie Béressy pour la réalisation de toute cette série d'émissions.